Merci d'être avec nous, Xavier Duringer. Vous êtes cinéaste, metteur en scène et écrivain. Vous revenez à peine de New York où vous avez reçu un International Emmy Award. Félicitations. C'est le pendant des récompenses de la télévision américaine en international. Vous l'avez reçu pour un film qui a été diffusé sur France 2 le 3 février 2016, qui s'appelle Ne m'abandonne pas. Est-ce que vous êtes à la fois remis de vos émotions et du décalage horaire ?
Légèrement pour le décalage horaire, mais là c'est pas mal, il doit être à peu près 1h du matin à New York, donc ça va, je suis encore dans les temps. Mais oui, je me remets de ces émotions, c'était ma première fois à New York et voilà, et c'était une fête absolument extraordinaire, on s'attendait véritablement pas, alors là je peux le dire, à recevoir ce prix, parce que il y avait vraiment de la compétition. En face, c'était Tim Ross, il y avait Kenneth Branagh, enfin bon, il y avait vraiment des poids lourds, très très lourds. Et puis, ben voilà, on a été récompensés. C'est un film qui a déjà eu pas mal de prix en Corée, le prix Italia, on a eu le prix à Monaco aussi, on a eu pas mal de prix autour de ce film-là, mais là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
Ne m'abandonne pas, c'est un film qui raconte l'histoire de Shama, une ado de 17 ans qui vient de réussir le concours de Sciences Po, mais qui en parallèle vit une autre vie. On écoute un extrait.
Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ?
Qu'est-ce que c'est, Sachama ?
Vous avez fouillé mes affaires ?
Peut-être qu'on doit t'appeler Mujahida Souya.
Bonjour, ma vie privée. Heureusement que j'ai rien à cacher.
On rigole pas, qu'est-ce que c'est ?
Mes recherches.
Tes recherches ?
Pour Sciences Po. Le djihad, les jeunes qui partent, les médias en parlent tous les jours. J'étais pas à l'abri de tomber là-dessus, moi, à l'oral.
Tous les étudiants préparent leur concours en prenant contact avec des terroristes ?
Non, mais si on n'entre pas dans leur jeu, ils refusent le contact. J'arrive pas à croire que vous puissiez vous faire un film pareil. Bon, vous me connaissez quand même.
Et cet Abderrahman ?
Ah, lui, c'est fou. Je l'ai vu deux ou trois fois à des soirées. Et un jour, je découvre sur Facebook qu'il est parti en Syrie. Avec Omar, un autre gars du lycée. Un jour, ils sont ici, le lendemain, ils écrivent de là-bas. C'est tellement irréel que j'ai voulu le comprendre.
Ok, alors s'il te plaît, tu vas arrêter ton baratin.
Ouais, je suis moche là-dessus.
Ça te fait rire ?
Arrêtez de flipper, là. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver derrière un écran ?
Bah, que tu te maries avec un converti et qu'ils veulent te ramener là-bas, par exemple, je sais pas.
C'est quoi, ça ?
Une nouvelle bague. T'aimes ?
Ça, c'est une alliance, Shama, putain !
De toute façon, c'est mieux comme ça. Je pouvais plus vous supporter avec vos sales gueules de mécréants.
Comment ?
Toi, tu te prétends croyant ? T'apprends même pas à tes enfants à vivre dans la vraie voie !
Tu te rends compte de ce que tu dis ?
Mais toi, t'es pire ! T'es divorcé, tu fumes du bois ! Mais vous m'écœurez, mais là, c'est fini ! Moi, je vais partir vivre dans la pureté du califat.
Shama, mais t'es malade ou quoi ?
Non, c'est vous les malades.
Shama !
Voilà, extrait de Ne m'abandonne pas. J'ai voulu le passer en longueur parce que c'est un extrait extrêmement fort de votre film, Xavier Duringer. On entend Samy Bouadjila, Marc Lavoine, Samia Sassi qui joue Shama et Lina Al-Arabi.
Exactement. Oui, c'est un film sur la déradicalisation, pas sur la radicalisation, mais sur la déradicalisation. C'est-à-dire que on s'aperçoit que certaines personnes peuvent se radicaliser en très très peu de temps, en fait. J'allais dire presque en quelques heures, presque en une nuit. Voilà, donc il y a la radicalisation peut se passer très rapidement. Par contre, la déradicalisation prend énormément de temps. C'est le combat d'une mère pour sauver sa fille. Qui va s'apercevoir que sa fille s'est radicalisée, qu'elle s'est mariée sur Internet avec un converti, et elle va s'en apercevoir avant qu'elle réussisse à partir. Elle va l'enfermer dans une maison de campagne et elle va se confronter à sa fille pendant toute la durée du film pour essayer de comprendre pourquoi, alors que c'est une élève brillante, que tout lui réussit, pourquoi elle s'est radicalisée ainsi.
C'est un film de commande, Xavier Duringer, ou c'est vous qui avez envie de faire ce film-là ? Je rappelle qu'il a été diffusé le 3 février 2016, hein, donc ça a dû être le premier sur ce sujet-là.
Oui, et puis on a fait pratiquement avec 5 millions d'eux, je crois, le soir de la diffusion, avec énormément de 18-24 ans, ce qui était pratiquement jamais arrivé sur France Télévisions. C'est pas un film de commande, c'est-à-dire qu'on m'a apporté ce sujet-là parce que c'est Françoise Charpia, Aude Markel qui sont les deux scénaristes, et avec Joey Farré, la productrice, enfin, elles m'ont apporté ce, j'allais dire, leur bébé. C'est tiré d'une histoire vraie, d'une fille qui a vécu ce genre de choses. Elle était du côté d'Avignon. Et c'est ce qui avait donné l'idée, en fait, aux deux scénaristes. Et c'est vrai que j'ai été touché d'abord par ce combat de femmes. De ce qui se passe dans les cellules, c'est vrai que les femmes se battent beaucoup. Là, j'ai rencontré beaucoup d'associations, de mères qui avaient des enfants, qui étaient partis en Irak, en Syrie. C'est un film maintenant qui est montré dans tous les lycées et les collèges.
C'est un film à dimension pédagogique, à visée pédagogique, mais
bien
aussi
sûr,
citoyenne.
Il n'est pas du tout manichéen, en plus. Enfin, la fille explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé. On comprend en fait le mécanisme de pensée et d'action de la gamine, et aussi bien sûr de son père et de sa mère, et de ce combat-là, et de montrer aussi que cette histoire-là peut toucher n'importe quelle famille, qu'on soit, j'allais dire, des purs Français de souche ou avec des enfants qui peuvent se convertir comme ça, ce qui se passe avec le fils de, j'allais dire, de Marc Lavoine dans le film.
Et puis ici et là, puisque vous disiez que le film avait aussi su toucher les spectateurs en Corée, en Italie, et puis donc maintenant aux États-Unis où le film a été montré, donc il dépasse même notre cadre national.
Je crois que c'est ce combat sur l'intimité en fait qui a touché, ce combat de femme, d'une mère pour sauver sa fille. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un pays au monde qui ne soit pas touché aujourd'hui par des problèmes avec la radicalité. Et c'est vrai qu'il a eu un écho extraordinaire, que ce soit en Asie ou en Europe.
Ouais. Alors le film, on peut encore le voir, non seulement parce qu'il est en DVD, mais il est aussi en streaming, en accès libre sur YouTube.
Oui.
Xavier Duringer, c'est volontaire de votre part.
Je crois qu'il y a une liberté d'ouverture. On fait un film pour être vu. Et c'est un film qui peut aussi bien, par rapport à un jeune qui se pose des questions, qui pourrait se poser des questions, qui peut avoir un trouble. On montre aussi comment s'organise en fait, non pas un lavage de cerveau, mais comment une gamine peut passer, j'allais dire, de son combat pour l'injustice, contre l'injustice, par exemple pour sauver les baleines bleues, et passer directement à partir en Irak. Il y a des sites qui sont extrêmement bien faits et qui peuvent, quand vous voyez des enfants pleurer parce qu'ils ont été brûlés par des bassines, j'allais dire, d'acide, par Bachar al-Assad, au-dessus de certaines villes, et vous avez des familles complètement, et qu'on vous montre comme ça cette souffrance pendant 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, et puis qu'après on vous dit, toi ce soir tu vas manger McDo ou machin, t'as pas honte que tes frères musulmans se fassent massacrer, que les femmes se fassent violer, que les enfants se fassent brûler, et que tu restes là sans rien faire.
C'est donc ce que dit Shama à sa mère.
Voilà, si l'adolescent ou même l'adulte n'a pas, j'allais dire, n'est pas suffisamment structuré, il peut très bien complètement péter un câble et partir là-bas. Est-ce qu'il va trouver là-bas est complètement le contraire de finalement ce qu'il avait peut-être envie de défendre, c'est-à-dire une forme d'injustice liée par exemple à Bachar el-Assad, et il va trouver là-bas l'horreur absolue. Et donc je crois qu'il y a mille et une façons de partir là-bas et une façon de pouvoir se confronter à ça. C'est pour ça que président Macron disait qu'on va voir cas par cas les retours, parce que vous avez des gens qui sont des anciens voyous, comme des gens qui sont complètement inspirés, comme des gens qui ont été touchés par je sais pas quoi. Et c'est vrai que en tout cas, ce qu'ils ont tous croisé là-bas, c'est l'horreur absolue des actes et de leur façon de penser.
Xavier Duringer, on voit tout ça très très bien dans votre film, qui est quand même un excellent film, hein, il faut bien le dire, très juste, très fin aussi, et pas facile. Je suppose que ça n'est pas évident quand on se lance dans ce genre de sujet aujourd'hui. On marche sur des œufs, il faut montrer toutes les étapes, le processus. Bien sûr, vous filmez les relations entre une mère et sa fille, mais tout ce qu'il y a autour compte énormément. La façon dont vous montrez avec beaucoup de subtilité l'évolution de ce processus de radicalisation, de déradicalisation avec les différentes étapes. Quels écueils avez-vous dû éviter? Quelles questions vous êtes-vous posées avant de faire le film?
Surtout d'arrêter de stigmatiser, quoi. Une communauté qui est en souffrance. On le voit encore hier avec 235 personnes tuées dans une mosquée en Égypte, une mosquée, j'allais dire, de soufis. et qui a énormément de façons de penser l'islam. Donc d'essayer de pas tomber dans les travers. Par exemple, je voulais pas que la famille elle vienne de banlieue comme on a l'habitude de voir. La mère est médecin d'origine algérienne.
Aisée, classe moyenne aisée.
Aisée, hein. Voilà. Pas croyante, mais pas pratiquante. Divorcée d'un père qui, lui, est croyant et pratiquant. D'une grand-mère, j'allais dire, sa mère à elle, enfin, de la mère, est plutôt une traditionnelle, bienveillante, j'allais dire, sur la vie de ses enfants. Et puis cette gamine qui est brillante à l'école, qui a réussi les examens de Sciences Po, donc qui est quelqu'un qui s'est intéressé déjà à la politique, à la vie sociale et tout ça. On la voit même en photo défiler avec le drapeau bleu, blanc, rouge sur la tête, sur les photos.
Ça permettait d'éviter les clichés.
Ça permet d'éviter les clichés.
Et
les idées reçues qu'on peut avoir, en fait, sur cette famille française, musulmane. Donc il fallait vraiment avoir aussi une gamine qui soit pas parlée comme une diva, parce qu'on serait dit ah oui mais nous ça nous touche pas, mais plutôt voilà des gens qui ont visiblement la tête sur les épaules et qui vont la perdre.
Eh bien c'est réussi, Xavier Duringer, et l'International Emmy Award que vous venez de recevoir à New York le prouve une fois de plus. Vous étiez donc à New York, vous disiez c'est votre première à New York, c'était quoi l'ambiance à New York quand vous y étiez là ces derniers jours?
L'ambiance autour du festival ou dans la
Générale, rue? Générale. Alors, je vous pose cette question un peu intéressée, hein, parce que
j'allais dire, c'était un
en
peu
ce
la...
moment on en parle beaucoup.
C'est un peu les préparations de Noël.
Donc plutôt gay.
Ouais, c'était plutôt gay. C'est vrai que on dit que New York c'est pas les États-Unis et qu'à l'intérieur de New York il y a tellement de différents New York, qu'on soit à Brooklyn, à Greenwich Village ou à Manhattan, c'est complètement différent. Donc voilà.
Et là c'est un festival international un festival de télévision, d'audiovisuel, mais surtout de télévision. Est-ce que le milieu de la télévision dans lequel vous avez donc baigné pendant quelques jours, Xavier Duringer, est très différent du milieu du cinéma où, paraît-il, en ce moment, on ne parle que de l'affaire Weinstein et de ses conséquences?
Ouais, enfin là, on n'a pas parlé de l'affaire Weinstein, j'allais dire dans ce festival, mais c'est vrai qu'il y a il y a un grand croisement aujourd'hui entre la télévision et le cinéma, parce qu'aujourd'hui une expression que chérissent énormément de réalisateurs de cinéma, c'est la série. On a le temps de développer les personnages, on a le temps de pouvoir développer les situations, on a le temps de rentrer beaucoup plus en profondeur parfois dans certains sujets. Donc on a, je sais pas moi, le téléfilm qui était contre nous, là c'était avec Tim Ross, un père qui a son fils qui est parti en Irak, qui est mort en Irak et qui attaque le gouvernement anglais, Tony Blair. On sent qu'il y a véritablement dans toutes les séries et les films télé, voilà, ça parle du monde, ça parle d'aujourd'hui, voilà. On n'a pas tellement parlé en fait de violences faites aux femmes lors de différents festivals et ça continue de pleuvoir.
Il faut peut-être lire Making of pour ça, Xavier Duringer, voilà. Qui est votre roman qui vient de sortir aux éditions Le Passage, parce que en lisant Making of, on a quand même le sentiment d'être un peu plus plongé dans l'univers d'Harvey Weinstein, à vrai dire, que dans le rêve hollywoodien, même si c'est un mirage, hein, le rêve hollywoodien. Est-ce que la vérité du cinéma, du monde du cinéma, est plutôt de ce côté-là? Vous plongez dans les coulisses d'un tournage de cinéma. C'est l'occasion aussi pour vous de parler de ce milieu du cinéma. C'est une déclaration d'amour au cinéma, mais enfin, avec des personnages qui sont en couleur et parfois qui n'ont pas leur langue dans leur poche, si je puis m'exprimer ainsi.
Bah déjà, écrire ce roman, pour moi, c'est une grande liberté. C'est-à-dire que par rapport à un scénario où on a forcément des comptes à rendre à une industrie, à des producteurs, à des distributeurs, écrire un roman, c'est pouvoir développer finalement les personnages qu'on a envie de développer, dans le style et dans la forme.
Et on se retient pas, on peut dire ce qu'on veut,
ouais,
dans un roman,
c'est un peu ça. C'est pas de se lâcher complètement, mais c'est de montrer, oui, il y a beaucoup d'amour de ma part dans ce roman, mais je parle, oui, de tous ces personnages. On connaît pas très très bien, en fait, les rapports qui existent entre les techniciens eux-mêmes, entre les acteurs et le réalisateur, entre le réalisateur et le producteur. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit « Ah, je viens de découvrir ce que c'était qu'un réalisateur, parce que pour moi, ça semblait abstrait. Est-ce qu'un réalisateur filme? Est-ce que c'est lui qui tient la caméra ?» Ben non, il y a un caméraman pour ça. Enfin, il y a un chef opérateur. Il peut y avoir un cadreur. Donc, J'ai voulu faire ce roman que j'avais dans la tête depuis longtemps, c'est-à-dire d'être dans un making-of, mais presque cérébral. C'est-à-dire qu'on est dans la peau des acteurs, on est dans la tête du réalisateur, dans ses problématiques de création, dans le rapport qui existe aujourd'hui, justement, faire un film qu'on a signé, ou un film de commande, ou qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être réalisateur. Il faut savoir qu'un réalisateur sur deux ne refait jamais un deuxième film au cinéma, un sur 30 seulement un troisième film. C'est un combat permanent. Que celui qui connaît le moins en fait un tournage, c'est le réalisateur. Ses techniciens travaillent tout le long de l'année, ses acteurs aussi. Le réalisateur, il fait au mieux un film tous les 2-3 ans. Donc c'est celui qui connaît le moins finalement le plateau. Donc je raconte un petit peu ces travers-là et essayer en fait d'avoir fait un tournage un peu imaginaire de toutes les galères survenues et de tous les moments ratés qui peut exister sur un tournage.
Oui, sur un mode comédie grinçante. Hein. C'est pas du tout un essai sur le milieu du cinéma.
C'est l'histoire
d'un tournage qui part en vrille et précisément à cause d'une scène d'amour à tourner qui est assez difficile à tourner. Bah, on va pas rentrer dans les détails du fait de l'actrice, du fait de l'acteur principal, etc. Donc, vous montrez aussi, mais d'un point de vue vraiment, on rit. Hein, c'est fait pour rire. Mais malgré tout, effectivement, derrière le rire, on voit les rapports de force, la folie de chacun, les difficultés que vous racontiez à l'instant, Xavier Duringer.
Mais je vous remercie de souligner de rire parce que c'était mon principal challenge sur ce roman. Moi, j'adore la littérature américaine, surtout de la Beat Generation, où j'adore lire, par exemple, des Fante ou des John Fante, des choses comme ça, parce que on peut parler de choses dramatiques et avoir le sourire et même des éclats de rire. Et moi, mon challenge, c'était véritablement de provoquer même des éclats de rire chez le lecteur. J'adore lui parler à l'oreille, j'adore lui raconter des histoires. Donc, c'est vrai que il y a énormément de comédie, c'est-à-dire qu'on rit beaucoup. Enfin, les retours que j'ai, aussi bien de la presse que du chaland, c'est que on rit beaucoup dans ce roman, on se cache presque, on referme le roman et on peut même pleurer de rire.
Ouais, voilà, parfois on rit jaune quand même, c'est pour ça que je reviens un peu, vous allez trouver que je suis un peu obsédé, mais enfin je reviens à mon obsession, et on se demande quand même si, puisque vous dites que c'est aussi les coulisses du monde vrai du cinéma, si ces relations entre réalisateurs et acteurs, et en particulier et actrices, se passent vraiment comme ça. Parce qu'il est quand même un peu sexiste votre réalisateur avec l'actrice principale.
Oui, mais enfin, il n'y a pas d'agression, j'allais dire, physique.
Sans agresser, mais ça commence par les mots quand même, ou par une attitude, une façon de considérer la personne.
Je crois qu'il a beaucoup d'amour pour cette actrice, mais bon, elle est
façon particulière de l'exprimer.
Elle est complètement déjantée comme les autres. Hein. Lui est complètement fou. Ce sont des gens qui sont en dehors même de certaines réalités, qui sont dans leur monde. Faire un tournage, c'est amener 60 personnes sur un bateau hein, et traverser l'océan. Donc c'est vraiment avec des tempêtes, avec du calme, ou parfois même le calme est aussi problématique que la tempête quand on est en mer.
Allez, on vous retrouve dans deux petites minutes, Xavier Duringer, le temps de laisser entendre le flash d'information par Camille Magnard. Il est 7h30 sur France Culture. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. La parole des femmes se libère, on le répète beaucoup depuis des semaines, mais sur les moyens de lutter contre ces violences sexistes, la parole présidentielle, elle reste très attendue. C'est donc ce matin qu'Emmanuel Macron doit présenter son plan d'action contre les violences faites aux femmes. Il devrait faire de l'égalité homme-femme la grande cause de son quinquennat. Christophe Castaner, lui, reste au gouvernement. Le remaniement ministériel finalement opéré hier soir lui conserve son secrétariat d'État aux relations avec le Parlement, alors qu'il est depuis samedi dernier le patron du parti La République En Marche. Benjamin Griveaux devient porte-parole du gouvernement qui compte deux nouveaux membres, Olivier Dussopt à la fonction publique et Delphine Gény-Stéphane à l'industrie. La France insoumise se met au vert pour tenter de trouver un nouveau souffle. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon réunit en convention ce week-end près de Clermont-Ferrand. Il s'agit de préparer la deuxième manche face à la politique d'Emmanuel Macron et ce, après l'échec des insoumis à mobiliser contre la réforme du Code du Travail. L'Égypte a entamé mais sa riposte brutale contre les djihadistes du Nord Sinaï au lendemain de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. 235 morts au moins dans une mosquée soufie. L'armée égyptienne a frappé hier des positions terroristes dans cette région largement contrôlée par la branche locale de Daesh. 10 jours pour finaliser ses propositions sur le Brexit à Bruxelles. Hier, Theresa May s'est vue rappeler la date butoir du 4 décembre par le président du Conseil Donald Tusk. Londres propose de fixer à 45 milliards d'euros le prix à payer. payer pour indemniser l'UE au moment de la quitter. On est encore loin des 60 milliards mentionnés par la Commission européenne. Voilà pour les titres qui seront développés dans notre journal de 8 heures, où nous apprendrons aussi que les vaches laitières sont des travailleuses comme les autres. Et oui, c'est l'une des très sérieuses conclusions scientifiques à découvrir aujourd'hui et demain au forum du CNRS à la Cité des Sciences à Paris. Question posée cette année dans ce forum. Caroline, que reste-t-il à découvrir?
No comment. À tout à l'heure. 8 heures à suivre dans la prochaine demi-heure, la suite de notre entretien avec le cinéaste et écrivain Xavier Duringer. Puis à 7h40, la fabrique médiatique sur le troisième épisode de notre série. Nous aussi, nous faisons des séries, Xavier Duringer, sur les journalistes et le président avec Thomas Legrand de France Inter et Elisabeth Martichoux de RTL.
Chaque dimanche sur France Culture à 15h30, une saison au théâtre par Joël Gaillot.
Fabrice Lucchini est un acteur hors norme, habité par les mots, dévoré par le théâtre. Il a fait de la scène l'endroit où ses névroses se convertissent en représentation. L'homme qui fait pleurer les spectateurs de rire sera l'invité dimanche d'une saison au théâtre. Nous parlerons avec lui de l'argent, sujet de son dernier spectacle, du public qu'il place au-dessus de tout et enfin et surtout du théâtre, à qui cet interprète sans limite a décidé de vouer sa vie.
Une saison au théâtre, ce dimanche à 15h30 et sur franceculture.fr.
Et on retrouve Xavier Duringer, cinéaste et écrivain, puisque vous êtes invité de la fête du livre de Radio France ce week-end pour votre roman Making Off, paru aux éditions Le Passage. On vous y retrouvera demain, hein, ici, invité. Cet après-midi, vous serez à Rueil-Malmaison. Où ça exactement, à Rueil-Malmaison?
Je sais pas, j'ai pas l'adresse.
Enfin, chercher, il faudra nous le donner pour le mettre sur le site internet, parce que Roi de ma maison, c'est quand même assez grand, Xavier Duringer. Alors, c'est intéressant parce que se dégage, on le disait à l'instant de votre ouvrage, une certaine vision du cinéma. Et d'ailleurs, vous n'avez pas choisi n'importe quel exergue, vous avez choisi Robert Bresson et ses notes sur le cinématographe, je vous cite, enfin, ou je le cite, cinématographe, art militaire, préparer un film comme une bataille. Vous disiez à l'instant que faire un film, c'était un combat. C'est comme ça que vous voyez le cinéma aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est un combat avant, pendant et après. C'est-à-dire, c'est un combat aujourd'hui. Monter un film, c'est très, très compliqué.
Quand vous dites monter un film, c'est pas le montage.
Trouver le financement, en fait, d'un film. Je veux dire, le casting, le financement, la distribution. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, en fait, de faire un film. Parce que, j'allais dire, les guichets se rétrécissent et c'est difficile, très 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 difficile. Donc souvent, vous avez des réalisateurs qui sont tellement battus pour faire leur film que quand ils arrivent au premier jour de tournage, ils ont lâché, ils ont déjà refait. Un peu comme un combat de boxe, ils ont déjà fait tellement le combat dans leur tête qu'ils arrivent au moment de se battre et que bah, finalement, il n'y a plus d'énergie. Il y a le moment du tournage et puis il y a le moment terrible de la sortie du film aussi, hein, où vous avez des films qui vont que le réalisateur a travaillé pendant des années, qui vont s'évacuer en 2 semaines, ils sont même plus à l'affiche. Donc en fait, il y a des verdicts très 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 difficiles. Donc et puis au moment du tournage, qu'on sait moins en fait, c'est ce rapport qui existe entre les techniciens, les acteurs, la production, l'argent, le monde de l'industrie, ce questionnement permanent de devoir faire un film aujourd'hui.
Vous avez encore envie de faire des films pour le cinéma ou vous tournez pour ces raisons-là vers la télévision, vers le théâtre, vous faites aussi du théâtre, vers la littérature?
J'aime pas le mot touche à tout, mais c'est vrai que pratiquement tout part de l'écriture. C'est-à-dire que un scénario, c'est l'écriture, une pièce de théâtre, c'est l'écriture, le roman, c'est de l'écriture. Donc, et puis après, ça va prendre d'autres formes. Le roman, pour moi, c'est une liberté absolue. Je reprends dans 2 mois une pièce qu'on avait jouée à Paris avec Nils Arustrup, Can Merad, Patrick Bosso, Vincent Jouan, qu'on avait joué. Ici au Théâtre des Bouffes Parisiens, et on repart en tournée à partir de, je crois, de janvier, février, mars. Et là, je viens de terminer un tournage en Thaïlande.
En Thaïlande. Alors, je me demandais si justement le film évoqué dans Making Of, dans votre livre, tourné en Thaïlande sur la guerre d'Indochine, correspondait à celui que vous avez vous-même tourné.
Non, le film sur la guerre d'Indochine, c'est le rêve d'un de mes chefs opérateurs. Donc, que je raconte dans ce roman. Non, j'ai fait un film qui s'appelle Paradise Beach avec justement le grand Sami Bouadjila, Hubert Koundé, Hugo Becker, Toufik Jalab, Mélanie Doutet, mais surtout aussi une bande de rappeurs, puisque j'avais le bonheur de pouvoir diriger Kool Shen, Seth Gecko, Nesbill, Dossé, HP. Jason Voorhees, enfin voilà, c'est un mix entre acteurs et rappeurs, enfin ils sont tous acteurs dans le film, et c'est un film qui se passe à Phuket, et voilà, qui est un film noir, et que j'ai mis pratiquement presque 12 ans à monter.
Ah quand même.
Voilà.
Donc, pour le financer.
Ouais, pour le financer.
Pour faire le casting.
Ouais. Pour faire le casting, surtout pour le financer.
Et le tourner.
Et le tourner, on a tourné donc là en mai-juin à Phuket. On a pratiquement fini le montage image.
Et on pourra le voir l'année prochaine.
Avril-mai, on va voir.
Avril-mai. Ouais. Donc c'est aussi le temps et c'est aussi ce que vous racontez dans ce roman. Vous dites votre réalisateur Paul Corso, mais qui est une sorte de double un peu caricatural, j'espère pour vous en tout cas, de vous-même Xavier Duringer. Il dit que la grande problématique du cinéma, c'est le temps. Donc ouais. C'est pas seulement l'argent aujourd'hui, c'est le temps.
C'est
12
ans
pour monter un film, quelques mois pour le tourner et quelques mois supplémentaires pour le monter avant qu'il soit vu.
Et la gestion du temps, c'est la gestion de l'argent. C'est-à-dire que si vous dépassez 2 heures une journée, au bout d'une semaine, c'est comme si vous aviez gagné un jour et ça va coûter très très cher à la production. Donc c'est le temps qu'il faut pour tourner et le temps qu'il fait. C'est-à-dire que quand vous commencez une scène avec du soleil et qu'après vous avez une grosse pluie, voilà, il y a une gestion en fait de toutes les formes du temps aujourd'hui qu'on peut avoir.
Qu'est-ce qui fait alors, Xavier Duringer, pour finir, qu'on continue malgré tout de faire ce métier ?
La passion de raconter des histoires, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans Making Of, parce que dans Making Of, bien sûr, il y a la partie, j'allais dire, plutôt drôlatique, c'est-à-dire on apprend qu'est-ce qui se passe une heure avant une scène d'amour et une heure après. Alors qu'on voit la scène d'amour au cinéma, on trouve que tout est magnifique, et là je parle des négociations incessantes qu'il peut y avoir entre les acteurs eux-mêmes et le réalisateur. Et en même temps, cette mélancolie aussi des années 80, j'ai voulu raconter à l'intérieur même de ce roman, même si Paul Corso serait une sorte de moi-même, j'allais dire, caricatural, non, pas tant que ça. Parce que ça permet, au moment où on les vit, les situations sont dramatiques, et après quand on les écrit, avec le temps, elles deviennent drôlatiques. Et c'est d'avoir le regard aussi sur soi-même, d'avoir une forme un peu d'humour.
Mais par exemple, réaliser, c'est détourner, mentir, violer, voler les acteurs, les trahir, les aimer, les haïr, tous les coups sont permis pour arriver à ses fins, vous pourriez le dire. C'est ce que dit Paul Corso.
Je pourrais dire quelque chose comme ça. Il y a des mots qui sont un petit peu violents, mais c'est vrai que à un moment, quand il faut arriver à ses fins. Le cinéma, c'est l'art, j'allais dire, de donner le vraisemblable, le crédible sur les choses, et que parfois il faut. Il y a deux sortes d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont besoin de coups de pied dans le cul et des acteurs qui ont besoin d'amour. Il faut surtout pas se gourer ni dans un sens ni dans l'autre, parce que sinon on arrive à une catastrophe. Donc parfois, oui, il faut user chaque acteur. En fait, se dirige différemment et parfois il faut user. En fait, on peut, oui, voler, détourner et amener l'acteur, en fait, et préparer l'acteur en dehors du plateau. Moi, je parle beaucoup dans ce roman aussi de l'en dehors du plateau. Il y a le plateau et l'en dehors du plateau. Et ce qui se passe parfois en dehors est la préparation de ce qui va se passer véritablement au moment du tournage.
Et vous serez, je le rappelle, demain, ici même à Radio France, Xavier Duringer, pour rencontrer vos lecteurs, futurs lecteurs et spectateurs de vos films. Spectateurs et téléspectateurs aussi de ce formidable « Ne m'abandonne pas » dont on a parlé en début d'entretien, pour lequel vous venez de recevoir un International Emmy Award. Merci beaucoup d'être venu nous voir
aujourd'hui.
Merci
à vous, c'était super.
Et bon samedi et bon week-end.